RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Mais bonjour Julien et bonjour à tous.
Dans cette édition, des partisans du Hezbollah continuent d'affluer vers le sud de Beyrouth.
C'est aujourd'hui que doivent avoir lieu les funérailles d'Hassan Nasrallah, chef emblématique du Hezbollah libanais, tué dans une frappe israélienne en septembre dernier. Le trafic aérien à l'aéroport de Beyrouth sera suspendu une partie de l'après-midi. Nous sommes à Beyrouth dans un instant. À la une aussi, Félix Tshisekedi qui rencontrait hier les députés de sa majorité. Le chef de l'État congolais tente de réorganiser l'armée pour renforcer sa riposte face au groupe armé du M23. Les élections législatives en Allemagne, les bureaux de vote ouvrent dans 2 heures maintenant. Vous entendrez également dans ce journal le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau qui blâme l'Algérie après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à une personne hier à Mulhouse. L'homme signalé pour radicalisation faisait l'objet d'une OQTF dont l'exécution avait été bloquée par Alger. Et puis nous vous en parlions hier. Le retour au pays d'enfants volés de la dictature Pinochet au Chili. 4 citoyennes américaines ont retrouvé hier leur mère biologique à l'aéroport de Santiago. Reportage dans ce journal.
Des dizaines de milliers de personnes affluent depuis hier vers le sud de Beyrouth.
Ils viennent du Liban mais aussi de l'étranger et ils vont assister dans quelques heures maintenant aux funérailles d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, pendant près de 32 ans tué dans une frappe israélienne sur Beyrouth. C'était en septembre dernier. Funérailles également pour son éphémère successeur Hachem Safieddine, son neveu, tué lui aussi dans une frappe israélienne en octobre dernier. Ces funérailles sont le premier événement populaire organisé par le Hezbollah depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu fin novembre avec Israël. Laure Stéphane, notre correspondante au Liban, a rencontré des chiites libanais qui conservent une véritable dévotion pour Hassan Nasrallah.
Bonnet sur la tête, dans le froid, Fatima, enseignante, déambule à la cité sportive où se tient aujourd'hui la cérémonie d'hommage à Hassan Nasrallah. Elle vient d'un village de la Beka lourdement bombardé par Israël durant la récente guerre.
Le Sayed était comme un père pour nous. Il nous protégeait, il garantissait notre honneur et notre dignité. Assister à ses funérailles, c'est le minimum. Quand bien même les routes sont glacées ou les roquettes israéliennes devaient s'abattre sur nous durant la cérémonie. Autrefois, tous les dirigeants arabes soutenaient la cause palestinienne. Puis beaucoup ont normalisé leurs relations avec Israël. Avec le Sayed, la cause palestinienne est restée vivante en nous.
Abbas, entrepreneur, est venu avec sa famille de Côte d'Ivoire où il vit. Sous les yeux de son jeune fils, il explique qu'il n'aime pas la politique au Liban, mais il vouait une profonde admiration à Hassan Nasrallah.
Si nous ne venons pas au Liban pour Sayed Hassan, alors pour quelle occasion? Nous sommes venus lui dire merci pour ce qu'il nous a offert. Sayed Hassan ne pouvait pas mourir autrement qu'assassiné. Mais au moins est-il mort avec honneur. Chaque soir, je regarde sur TikTok ses anciens discours. Il ne parlait pas seulement de politique, mais aussi de religion, d'éthique. J'écoute avant de m'endormir et je pleure chaque soir.
À la diaspora et aux Libanais de l'intérieur se mêleront aujourd'hui des Irakiens, Yéménites et autres étrangers qui ont fait le voyage pour ce moment de recueillement et de mobilisation. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
L'Iran sera représenté aujourd'hui à un haut niveau lors de ses funérailles. Selon des médias iraniens, le président du Parlement devrait être présent à Beyrouth. Elles ont attendu toute la journée d'hier, une partie de la nuit, les familles des 602 prisonniers palestiniens qui devaient être libérés par Israël en échange des 6 otages israéliens qui ont été relâchés hier par le Hamas. Le gouvernement israélien retarde ces libérations pour protester contre les cérémonies auxquelles sont forcés de participer les otages, contraints parfois de prononcer quelques mots dans un micro devant une foule sous la menace d'hommes en armes. Ces mises en scène qui ont été dénoncées à plusieurs reprises par Israël, l'ONU ou encore la Croix-Rouge.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi tente de réorganiser l'armée.
L'objectif, c'est de renforcer sa riposte alors que les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, se sont emparés de plusieurs villes et localités dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Félix Tshisekedi, qui a rencontré hier députés, sénateurs et les caciques de sa coalition. Et il est resté ferme sur son refus de dialoguer avec le M23. À Kinshasa, Pascal Moulégua.
Le président affirme avoir dit aux évêques catholiques et protestants qui tentent d'assurer une médiation dans la crise qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23, qu'il a encore qualifié de pantin. cesserait de nous humilier, a-t-il déclaré, même s'il a reconnu que les forces congolaises sur qui il compte pour inverser la dynamique sur terrain sont trahies de l'intérieur, dit-il. Et d'ajouter, tous ceux qui sont chargés de les encadrer ont pris de l'argent, soit ils n'ont pas fait parvenir ce qui devait arriver à nos forces. Tshisekedi a révélé qu'il est même arrivé aux troupes engagées au front de s'y retrouver, je cite, pendant une semaine sans commandement et sans ravitaillement. Mais c'est fini, a dit Tshisekedi, promettant une refonte totale de l'armée qui devrait être professionnelle et bien prise en charge. Côté politique, le président envisage la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais bien avant, il compte opérer des changements dans la direction de l'Union sacrée. Sa majorité qu'il a défie avec un manque de réactivité politique face aux défis sécuritaires. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Sur le terrain, calme précaire régnait hier sur les différents fronts, au nord, dans le territoire du Lubero, comme au sud, ou dans la ville d'Ouvira. La situation semble se stabiliser après des tirs et des pillages signalés cette semaine, selon plusieurs sources, dont un administrateur local. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées dans ces troubles cette semaine.
Les bureaux de vote ouvrent dans 2 heures en Allemagne.
Une élection législative anticipée après une campagne dominée par les questions d'immigration et d'insécurité. C'est le candidat de la CDU, le conservateur Friedrich Merz, qui est donné en tête dans les sondages devant la formation d'extrême droite de l'AFD et les sociodémocrates d'Olaf Scholz. Mais il y a encore de nombreux indécis, l'incertitude qui est forte autour de la coalition qui émergera de ces élections. On y revient toute la journée sur notre antenne et sur RFI.fr avec une série d'analyses et de reportages sur notre site.
En France, il a rendu hommage au sang-froid des policiers.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait hier devant l'hôtel de police de Mulhouse après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un homme âgé de 69 ans. L'assaillant, un ressortissant algérien au profil schizophrène, était inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il faisait aussi l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Bruno Retailleau a accusé l'Algérie d'avoir refusé à 10 reprises son expulsion.
J'en tire deux leçons vis-à-vis d'Algérie, puisque on octroie beaucoup, beaucoup, beaucoup de visas. La France a tendu la main. Quelles que soient les plaies parfois vives de l'histoire, aucun pays, quelle que soit l'histoire qui peut nous séparer, n'a un droit de tirage pour humilier la France. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisé avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le droit international, les relations entre les pays, les nations, mais là, notamment avec le régime algérien, c'est la réciprocité. Ils n'appliquent pas un certain nombre d'accords que nous avons passés avec eux. Pourquoi est-ce que nous, on serait plus royaliste que le roi? Donc moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français.
Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, qui s'est par ailleurs félicité hier soir de l'arrestation de Mohamed Amra, narcotrafiquant sous le coup d'une notice Interpol. Il a été arrêté hier en Roumanie, son évasion par un commando lourdement armé avait coûté la vie à 2 agents de l'administration pénitentiaire.
RFI.
Ce sera demain, le conflit ukrainien entre dans sa 4e année.
Oui, RFI sera en édition spéciale demain matin, matinale délocalisée dans la capitale ukrainienne, Kiev, à l'heure où les États-Unis ont rétabli le dialogue avec la Russie et tentent d'imposer des négociations à l'Ukraine, appelée à être plus réaliste. Hier, la communauté ukrainienne argentine se mobilisait dans la rue pour une paix juste à Buenos Aires. Reportage de Théo Conscience.
Ils sont plusieurs centaines à être venus se rassembler autour d'un immense drapeau ukrainien de plusieurs mètres de long dans le centre de Buenos Aires hier. Irina, petite fille d'Ukrainien ayant émigré en Argentine, est venue pour réclamer una paz justa, une paix juste.
Une paix juste est une paix négociée entre toutes les parties. Poutine a parlé avec Trump et ils ont négocié sans Zelensky, le président ukrainien, qui a déjà dit plusieurs fois qu'il n'acceptera pas de céder des territoires. Donc l'important, c'est que toutes les parties soient dans la négociation pour pouvoir arriver à une paix juste.
L'attitude et les déclarations de Donald Trump ces dernières semaines inquiètent les Ukrainiens d'Argentine. Yevhen, analyste en sécurité informatique installé à Buenos Aires depuis 5 mois, ne digère pas que le président américain ait qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection.
Not only me, but Ce n'est pas seulement moi, aucun Ukrainien n'aime ce narratif, car ce que nous entendons, ce sont les mots de la propagande russe dans la bouche du président américain.
Malgré l'inquiétude, beaucoup parmi la communauté ukrainienne d'Argentine rappellent que Donald Trump est coutumier des déclarations fracassantes et veulent croire que le président américain n'abandonnera pas l'Ukraine à son sort. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et lui, natif de Buenos Aires, le pape François reste dans un état critique. Son pronostic est actuellement réservé. Voilà pour les nouvelles données hier soir par le Vatican, alors que le souverain pontife, âgé de 88 ans, souffre d'une pneumonie et entame sa deuxième semaine d'hospitalisation. Au Chili, à présent, des familles se retrouvent plus de 30 ans après avoir été séparées. Quatre Américaines ont atterri hier à l'aéroport de Santiago. Elles y ont retrouvé leur mère biologique. Logique chilienne. Ces quatre femmes font partie des 20 000 enfants adoptés illégalement entre 1960 et 1990 sans l'accord de leur mère qui était souvent pauvre et illettrée. Notre correspondante au Chili, Naila Derouane, a suivi ses retrouvailles. Reportage.
Après des mois d'attente, les heures, les minutes et les secondes semblent éternelles dans le hall de l'aéroport. Puis les portes s'ouvrent, les regards se croisent, se reconnaissent et des pleurs de joie s'emparent des familles. Claudia vient de retrouver sa petite sœur qu'elle serre fort dans ses bras. Nathalie a été adoptée par un couple d'Américains à la fin des années 80. Les deux sœurs ne se lâchent plus.
Muy feliz.
Je suis très heureuse, je me sens complète, dit Claudia.
Lo que faltaba mi vida.
C'est ce qu'il manquait dans ma vie. Je suis très heureuse, très
heureuse. Muy feliz. Emocionada.
Sa petite sœur, Nathalie, a grandi dans l'Oklahoma aux États-Unis. C'est elle qui a entrepris de chercher sa famille biologique.
40 years.
Ça fait 40 ans que j'attends ce moment. Ça a été long, explique-t-elle. J'ai pensé à ma sœur tous les jours depuis que je suis enfant. Et maintenant, elle est réelle. C'est incroyable. À côté d'elle, Ada Marie vient de retrouver sa mère et ses sœurs chiliennes. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours, mais tout ça valait la peine, dit-elle. Je suis très émue aussi de connaître mon pays. Je vais lui préparer un hachis parmentier de maïs, rigole sa maman. Entourée de ses 4 enfants, la famille est désormais au complet. Naila Derouane, Santiago, RF.
Et puis c'est une épidémie qui prend de l'ampleur.
À la Réunion, l'épidémie de chikungunya, maladie infectieuse transmise par les piqûres de moustiques tigres. 362 cas ont été recensés. Une bonne partie de l'île est désormais concernée. Elisa Fédier.
19 des 24 communes du département sont touchées et avec les pluies récentes, le nombre de cas risque encore d'augmenter, particulièrement dans l'ouest et le sud de la Réunion. Pour freiner l'épidémie, l'ARS, l'Agence régionale de santé, multiplie les opérations de démoustication. Des agents sont déployés dans toute l'île, font du porte-à-porte pour sensibiliser la population, mais aussi pour repérer d'éventuels foyers de contamination. Alors même si l'impact sanitaire reste pour l'instant limité, la préfecture appelle à la vigilance. Plus il y a de cas et plus le risque de forme grave peut augmenter. Le directeur de la veille sanitaire de l'ARS s'attend à une épidémie moins forte qu'en 2005. Il y a 20 ans, le virus de chikungunya avait fait 225 morts. Tout est fait donc pour éviter ce scénario. À partir du mois d'avril, 10 millions de moustiques tigres manipulés en laboratoire seront lâchés dans le sud de la Réunion, notamment à Saint-Joseph. L'objectif de cette expérimentation, réduire la population de moustiques de 90%.
Elisa Fellier, 6h13 ici à Paris. Tout de suite, c'est Julien Coquelroem.
Merci Jeanne Bartoli. Dimanche 23 février 2025, bienvenue, RFI Matin, 3 heures d'information et à la une, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à nouveau fragilisé après la libération de 6 otages hier dans la bande de Gaza, à nouveau mise en scène. Israël fait pression sur le Hamas pour obtenir la fin de ces cérémonies filmées. L'État hébreu a décidé de retarder la libération des 602 prisonniers palestiniens qui devaient sortir de prison hier.
Nos prisonniers seront libérés. Notre peuple a tant souffert et la bande de Gaza rayé de la carte. Les prisonniers ont donné une partie de leur vie pour la liberté. Et maintenant, il faut qu'on soit là.
Colère et détermination chez les proches de détenus palestiniens. Un Ramallah reportage à suivre dans le journal de 6h, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi l'Allemagne. Les élections législatives anticipées, on en reparle dans un instant. Du côté de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi rejette toujours tout dialogue avec le M23 soutenu par le Rwanda. Et en marge des combats dans l'Est, des pillages et des tirs martyrs rapportés cette semaine dans la ville d'Uvira, attribués à des militaires congolais selon le maire adjoint. Témoignage d'habitants dans le prochain journal Afrique, c'est dans moins de 20 minutes. Et puis au sommaire également ce matin, l'Afrique en marche et du rugby en Côte d'Ivoire. Une formation du Stade Toulousain pour un club d'Abidjan cette semaine. On en parlera avec Frédéric Gara. 6h15 à Paris et Berlin. Une campagne éclair et mouvementée qui se termine, un scrutin de tous les dangers et sans doute historique. En Allemagne, ce matin, les bureaux de vote ouvriront bientôt dans 2 heures pour des élections législatives anticipées qui marqueront sans doute la fin du mandat d'Olaf Scholz au poste de chancelier. Le candidat CDU de la droite conservatrice Friedrich Merz est largement favori. Mais ce qui attire les regards du monde entier, c'est évidemment le parti qui occupe la 2e place dans les sondages. Après une campagne marquée par des attaques terroristes et dominée par les débats sur l'immigration, l'AFD d'extrême droite, proche de la mouvance néo-nazie, est crédité de 20% des intentions de voix. Ce serait un tournant pour le pays, une situation inédite depuis 1945. Et beaucoup d'Allemands s'en inquiètent. Reportage à Dortmund, dans l'est de l'Allemagne. Notre envoyé spécial, Julien Chavanne.
Samedi matin, 10h, c'est l'heure du cours d'allemand à l'association Train of Hope. Une dizaine de femmes sont là, cahiers sur la table. Masma Husseini a quitté l'Afghanistan il y a 10 ans. Le succès de l'AFD lui fait peur. Elle raconte avoir rejoint l'Allemagne pour fuir l'oppression des talibans. Alors se retrouver aujourd'hui pointée du doigt, stigmatisée par la 2e force politique d'Allemagne, la déçoit énormément. L'association Train of Hope, le train de l'espoir, a été créée par Fatma Kajakourtlou en 2015, quand Angela Merkel a ouvert les portes du pays aux réfugiés syriens. Pour cette élue municipale du parti de gauche, Die Linke, une AFD forte au Bundestag serait catastrophique.
Ils vont faire des lois différentes qui vont rendre la vie des étrangers plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. C'est déjà dur, mais ça va le devenir encore plus. On a le sentiment de ne pas être le bienvenu ici. On ne peut jamais dire « Ok, c'est chez moi, je peux vivre ici en paix ». Ce n'est pas possible.
David Digman organise à sa façon la résistance. Il s'occupe à Dortmund de la branche jeunesse de la DGB, la principale confédération allemande de syndicats. Il donne des cours dans des collèges pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l'AFD, un parti nazi, selon ses mots.
Beaucoup de gens ne se sentent pas assez pris en compte par les grands partis comme le SPD ou la CDU. Et l'AFD a des réponses très faciles à certaines questions. Le problème, c'est que ces réponses sont racistes.
L'AFD prospère chez les jeunes et elle séduit de plus en plus parmi la classe ouvrière. Sur la place centrale de Dortmund, le grand syndicat de la métallurgie IG Metall organise un rassemblement. On y croise Marcel, casque sur la tête. Il tient une pancarte où il est écrit
« L'AFD n'est pas du côté des travailleurs ».
Membre du Parti communiste, il travaille chez ThyssenKrupp.
Je suis contre l'AFD et je veux que l'AFD soit interdite parce qu'ils sont fascistes et nous devons donc lutter contre l'AFD.
S'il devient chancelier, Friedrich Merz a exclu de gouverner avec l'AFD, mais le parti d'Alice Weidel espère obtenir suffisamment de voix pour devenir incontournable dans le prochain Parlement. Julien Chavanne, Dortmund, RFI.
Et ces élections législatives anticipées en Allemagne que vous suivez toute la journée sur RFI et ce soir dans notre édition spéciale à 18h10, temps universel.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et cette semaine une nomination qui fait beaucoup parler, celle de Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Julien.
L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a obtenu la validation des parlementaires qu'à une voix près. Emmanuel Macron, qui avait choisi de proposer le nom de ce fidèle, a donc évité le camouflet de justesse.
Oui, car c'était bien Emmanuel Macron la cible. Depuis l'annonce du choix présidentiel, la machine à contestation s'était emballée, car Richard Ferrand est identifié comme un grognard de la Macronie, artisan de la victoire de 2017, fidèle parmi les fidèles, éphémère ministre devenu président de l'Assemblée nationale avant d'être battu aux législatives de 2022, premier dégât collatéral de sa proximité avec Emmanuel Macron. Depuis, Richard Ferrand, reconverti dans le privé, restait l'un des conseillers de l'ombre du président, C'est pour toutes ces raisons que sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel a suscité tant de protestations.
Faire barrage à Richard Ferrand, c'était envoyer un message de rejet à Emmanuel Macron ?
Exactement. Un parlementaire proche d'Édouard Philippe résume la situation dans des termes imagés. C'était, selon lui, le moyen de foutre une casserole de plus au président. Avant d'ajouter à propos de la pertinence du choix de Richard Ferrand, je n'aurais pas pris cette décision, mais ça n'a rien de scandaleux. Une ministre très macroniste défend, elle, avec zèle, l'ancien président de l'Assemblée nationale et dénonce un procès en amitié quand le député LR Olivier Marleix condamne, lui, un copinage malsain avec le chef de l'État, car c'est de la gauche mais aussi de la droite républicaine que sont venues les attaques et les votes contre la nomination de Richard Ferrand quand le RN s'est abstenu et lui a sauvé la mise.
Et quelles conséquences cela peut-il avoir ?
Eh bien d'abord, cela montre la fragilité du socle commun, cette alliance de circonstances entre le Bloc central et les Républicains sur laquelle repose le gouvernement Bayrou. À la première occasion, les Républicains manifestent qu'ils détestent Emmanuel Macron. Un chef de groupe du Sénat estime qu'en voyant que le RN s'abstenait, ils se sont lâchés en votant contre le candidat du président. Et puis chaque décision de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel risque d'être passée au crible du soupçon de partialité, à moins que, comme Robert Badinter qui fut nommé à la même fonction, il ne démontre qu'il a intégré son devoir d'ingratitude par rapport à celui qu'il a nommé, Emmanuel Macron.
Affaire à suivre. Merci Valérie Gass. Décrypter l'actualité internationale à l'aide de 100 questions clés comme qu'est-ce que le Sud global ou qu'est-ce qu'un empire ? C'est la mission que s'est donnée l'auteur de notre livre international cette semaine, le journaliste Marc Semo et son ouvrage « La géopolitique, comprendre le monde de demain », un livre où il décode notamment la nouvelle place que prennent les mers et les océans dans la géopolitique mondiale. Il nous en parle au micro de Frédéric Lebel.
Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales. Vous avez longtemps travaillé pour Libération et Le Monde. Vous êtes éditorialiste pour le magazine Challenge et vous publiez aux éditions Talendier la géopolitique, comprendre le monde de demain en 100 questions. Vous employez un néologisme très intéressant dans votre livre, celui de maritimisation du monde. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que le commerce maritime aujourd'hui est toujours plus important. Plus de 90% du commerce mondial se fait par voie de mer. Et le contrôle des mers, c'est pas le contrôle des océans, parce que par définition, il n'y a pas de frontières dans les océans une fois sortis des eaux territoriales ou des zones économiques exclusives. En revanche, le contrôle des mers, c'est le contrôle des détroits, c'est le contrôle d'un certain nombre de côtes, c'est le contrôle d'un certain nombre de régions qui sont autant de points d'appui qui permettent aux grandes flottes de contrôler les mers. Outre le néologisme de maritimisation, il y a un autre néologisme qui est celui de navalisme.
Tout à fait, et qui nous amène à parler des moyens militaires déployés sur mer. Et là, on peut dire que les États-Unis sont indépassables.
Les États-Unis sont pour le moment indépassables, alors même si numériquement ils sont talonnés par les Chinois, mais c'est classique. Si vous voulez, dans le monde des relations nationales, l'hyperpuissance, la première puissance, a toujours été celle qui dominait les mers. Alors ça avait été le cas du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne au 19e siècle et au début du 20e. C'est ensuite le cas des Américains et aujourd'hui, ils sont défiés par la Chine. Alors ensuite, il y a une autre dimension qui est celle des puissances mixtes, qui sont à la fois maritimes et terrestres, comme pouvait l'être la France, bon, qui n'a jamais eu trop de chance avec la mer. Et d'ailleurs, on peut regretter en France, alors que la France a le deuxième domaine maritime au monde, notamment dans l'Indo-Pacifique, que jamais la politique française n'a joué le primat de la mer.
Et la France aimerait, vous le disiez, avoir un rôle dans cette région, mais ses moyens sont dérisoires.
Voilà, la France a un rôle. D'abord, de tous les pays de l'Union européenne, c'est la seule qui plante son drapeau dans des territoires dans l'Indo-Pacifique. Mais nos moyens sont dérisoires, c'est quelques frégates. Et dans un rapport de l'IFRI, ils estimaient que c'était comme si on avait une voiture de patrouille pour tout le territoire français.
On parle de plus en plus de l'océan Arctique, et pas seulement en raison des déclarations provocatrices de Donald Trump sur l'annexion du Groenland. Quelle place cet océan de l'extrême nord pourrait-il tenir dans la future géopolitique du monde ?
Une place clé, parce que d'abord, c'est le plus petit des océans, 14 millions de kilomètres carrés, mais c'est quand même pas rien. Mais surtout avec le réchauffement climatique, le fait que déjà l'été, la mer sera ouverte, et ça peut même l'être malheureusement si le réchauffement continue à s'accentuer même longtemps dans l'année, il est possible de passer par là, pour passer de l'Atlantique au Pacifique ou réciproquement, pour aller vers l'Asie, ce qui raccourcit d'au moins un tiers le voyage. C'est non seulement un enjeu stratégique toujours plus important, il l'était déjà, hein, ne faut pas oublier que pendant la guerre, les États-Unis avaient installé à Thule une énorme base pour militaire. Aujourd'hui, il faut voir que dans l'Arctique, il y a plus de sous-marins russes et chinois que d'ours polaires.
On parle de l'importance des mers dans les rapports de force mondiaux. Elles sont à double titre stratégique, en raison aussi des câbles de communication qui sont au fond des océans. À l'heure de l'IA, c'est une matérialité qu'on ne peut pas oublier.
C'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire, on a l'impression Internet, c'est le satellite, machin, le cloud, immatériel et tout. C'est pas vrai. Les centres de data, etc. Et la communication, ça passe par des trucs qui sont extrêmement physiques, qui sont des millions de kilomètres de câbles sous-marins. Hein. Ils sont 500 grands câbles, à peu près 550 grands câbles sous-marins. Alors, ils sont pas très épais, c'est à peine un poignet. Mais c'est par là que transitent à peu près toutes les données du numérique. Et presque tous passent par les États-Unis, y compris les câbles qui relient l'Europe à l'Asie. Ils passent par les États-Unis. Alors, ce qui permet aux États-Unis d'ailleurs de tout écouter. Et on s'aperçoit aussi de leur enjeu stratégique. On l'a vu avec la guerre dans les relations avec la Russie, en Baltique, où régulièrement des chalutiers ou des navires fantômes russes coupent ces câbles, on les répare.
Guerre hybride, conflit de haute intensité, maritimisation du monde, autant de concepts que vous avez décryptés dans votre livre, Marc Sémot, La géopolitique, comprendre le monde de demain, qui paraît aux éditions Talendier. Merci à vous.
Notre livre international avec Marc Sémot et Frédéric Lebel.
RFI Matin.
Demain, cela fera 3 ans que l'armée russe a envahi à grande échelle le territoire ukrainien. Et ce dimanche, l'atelier des médias nous emmène en Ukraine. Bonjour Steven Jambeau.
Bonjour Julien Coquelero-M.
Aujourd'hui à 11h10, temps universel, vous nous proposez un reportage en Ukraine. Et plus spécifiquement sur un voyage de presse qui a été organisé pour des journalistes français.
Oui, alors pour expliquer aux auditeuristes ce qu'est un voyage de presse, c'est lorsque des journalistes sont invités pour couvrir un événement. Les organisateurs leur proposent la prise en charge de leur déplacement, de leur hébergement, parfois aussi de leur repas, en échange de la couverture de tel ou tel événement ou initiative. Des festivals de musique, des marques, des groupes industriels, des ONG en proposent régulièrement aux médias qui se laissent parfois tenter. Au passage, cela dit aussi quelque chose de la situation économique compliquée des médias d'information.
Mais alors pourquoi l'Ukraine, un pays en guerre, organise-t-elle des voyages de presse pour des journalistes français ?
C'est tout l'objet du reportage d'Arnaud Contreras que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui sur RFI et dès maintenant en podcast sur toutes les plateformes d'écoute en cherchant l'atelier des médias. Écoutez, à ce propos, Ilya Adiadek, qui est responsable de programme au Lviv Media Forum, une organisation ukrainienne de soutien aux médias et de développement des médias qui sont basés en Ukraine. C'est l'un de ceux qui ont organisé ce voyage.
C'est vraiment une sorte de voyage touristique avec un sens plus profond. Donc vous découvrirez un peu de culture, un peu d'éducation, quelques situations en première ligne. Mais je pense que l'objectif principal est que les journalistes étrangers aient une meilleure idée du pays et qu'ils aient une meilleure connaissance des gens d'ici et qu'ils comprennent leur état d'esprit. Je sais que beaucoup de gens ont peur d'aller en Ukraine. Ils s'imaginent que c'est vraiment dangereux. Et c'est dangereux. Vous ne savez jamais quand un drone pourrait frapper le bâtiment où vous vous trouvez. Mais dans la vie de tous les jours, vous disposez toujours de toutes les choses que vous appréciez en Europe. Vous allez au travail tous les jours, vous prenez votre café tous les jours, mais il y a un plus grand risque de se faire bombarder qu'en Europe.
Lviv, Kiev, Irpin ou encore Boutcha étaient au programme de ce voyage de presse pour des journalistes français. Je vous invite vivement à l'écouter, vous y comprenez. Vous comprendrez que l'une des plus grandes peurs de l'Ukraine et des Ukrainiens, c'est d'être oubliés et livrés à leur sort.
Ukraine, voyage de presse en zone de guerre, c'est un reportage d'Arnaud Contreras à écouter à 11h10, temps universel sur RFI et dès maintenant en podcast, par exemple, sur RFI Pure Radio. Merci Steven Jambeau.
Bonne journée Julien.
Et l'Ukraine, où nous serons demain matin, édition spéciale en direct de Kiev avec Andréane Mellard. C'est à ne pas manquer à partir de 6h10. Temps universel. Bientôt 5h30, TU, le journal dans une minute sur RFI.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Inspirante, décomplexée, riche et aujourd'hui courtisée, cette nouvelle cuisine mêlée des racines assumées et revendiquées de l'Afrique en France. Ses chefs au fourneau sont afrodescendants, afropéens, africains installés depuis quelques années ou bien en escale. Et cette cuisine, on la goûte tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navy sur RFI.
Géopolitique.
L'histoire s'accélère et Vladimir Poutine n'a jamais été aussi près de gagner sa guerre en Ukraine après 3 ans de combats acharnés. Pour le président russe, la promesse de négociation est un premier pas vers une fin de la guerre à ses conditions et représente un grand renversement de situation, l'approche du président américain Trump étant aux antipodes de celle de son prédécesseur Biden.